Portrait de maîtresse. Dans un boudoir d'homme, c'est-à-dire dans un fumoir attenant à un élégant tripot, quatre hommes fumaient et buvaient. Ils n'étaient précisément ni jeunes, ni vieux, ni beaux, ni laids, mais vieux ou jeunes, ils portaient cette distinction non méconnaissable des vétérans de la joie. Cet indescriptible je ne sais quoi, cette tristesse froide et railleuse qui dit clairement « Nous avons fortement vécu et nous cherchons ce que nous pourrions aimer et estimer. » L'un d'eux jeta la causerie sur le sujet des femmes. Il eût été plus philosophique de n'en pas parler du tout, mais il y a des gens d'esprit qui, après boire, ne méprisent pas les conversations banales. On écoute alors celui qui parle comme on écouterait de la musique de danse. « Tous les hommes, disait celui-ci, ont eu l'âge de chérubins. C'est l'époque où, faute de dryade, on embrasse sans dégoût le tronc des chênes. C'est le premier degré de l'amour. Au second degré, on commence à choisir. Pouvoir délibérer, c'est déjà une décadence. C'est alors qu'on recherche décidément la beauté. Pour moi, messieurs, je me fais gloire d'être arrivé depuis longtemps à l'époque climatérique du troisième degré, où la beauté elle-même ne suffit plus si elle n'est assaisonnée par le parfum, la parure, etc. J'avouerai même que j'aspire quelquefois, comme à un bonheur inconnu, à un certain quatrième degré qui doit marquer le calme absolu. Mais durant toute ma vie, excepté à l'âge de chérubin, j'ai été plus sensible que tout autre à l'énervante sottise, à l'irritante médiocrité des femmes. Ce que j'aime surtout dans les animaux, c'est leur candeur. Jugez donc combien j'ai dû souffrir par ma dernière maîtresse. C'était la bâtarde d'un prince. Belle, cela va sans dire. Sans cela, pourquoi l'aurais-je prise? Mais elle gâtait cette grande qualité par une ambition malséante et difforme. C'était une femme qui voulait toujours faire l'homme. Vous n'êtes pas un homme. Ah, si j'étais un homme. De nous deux, c'est moi qui suis l'homme. Tels étaient les insupportables refrains qui sortaient de cette bouche d'où je n'aurais voulu voir s'envoler que des chansons. À propos d'un livre, d'un poème, d'un opéra pour lequel je laissais échapper mon admiration. « Vous croyez peut-être que cela est très fort, » disait-elle aussitôt. « Est-ce que vous vous y connaissez en force ?» Et elle argumentait. Un beau jour, elle s'est mise à la chimie, de sorte qu'entre ma bouche et la sienne, je trouvais désormais un masque de verre. Avec tout cela, fort bégueule, si parfois je la bousculée par un geste un peu trop amoureux, elle se convulsait comme une sensitive violée. « Comment cela a-t-il fini ? » dit l'un des trois autres, « je ne vous savais pas si patient. »« Dieu, » reprit-il, « mit le remède dans le mal. Un jour, je trouvais cette Minerve affamée de force idéale, en tête à tête avec mon domestique et dans une situation qui m'obligea à me retirer discrètement pour ne pas les faire rougir. Le soir, je les congédiai tous les deux en leur payant les arrérages de leur gage. Pour moi, reprit l'interrupteur, je n'ai pas à me plaindre que de moi-même. Le bonheur est venu habiter chez moi et je ne l'ai pas reconnu. La destinée m'avait, en ces derniers temps, octroyait la jouissance d'une femme qui était bien la plus douce, la plus soumise et la plus dévouée des créatures, et toujours prête, et sans enthousiasme. Je le veux bien, puisque cela vous est agréable. C'était sa réponse ordinaire. Vous donneriez la bastonnade à ce mur ou à ce canapé, que vous en tireriez plus de soupirs, que d'en tirer du sein de ma maîtresse les élans de l'amour le plus forcené. Après un an de vie commune, elle m'avoua qu'elle n'avait jamais connu le plaisir. Je me dégoûtais de ce duel inégal, et cette fille incomparable se maria. J'eus plus tard la fantaisie de la revoir, et elle me dit, en me montrant six beaux enfants, « Eh bien, mon cher ami, l'épouse est encore aussi vierge que l'était votre maîtresse. » Rien n'était changé dans cette personne. Quelquefois, je la regrette. J'aurais dû l'épouser. Les autres se mirent à rire, et un troisième dit à son tour, « Messieurs, j'ai connu des jouissances que vous n'avez peut-être négligées. Je veux parler du comique dans l'amour, et d'un comique qui n'exclut pas l'admiration. J'ai plus admiré ma dernière maîtresse que vous n'avez pu, je crois, haïr ou aimer les vôtres. Et tout le monde l'admirait autant que moi. Quand nous entrions dans un restaurant, au bout de quelques minutes, chacun oubliait de manger pour la contempler. Les garçons eux-mêmes et la dame du comptoir ressentaient cette extase contagieuse jusqu'à oublier leurs devoirs. Bref, j'ai vécu quelque temps en tête à tête avec un phénomène vivant. Elle mangeait, mâchait, broyait, dévorait, engloutissait, mais avec l'air le plus léger et le plus insouciant du monde. Elle m'a tenu ainsi longtemps en extase. Elle avait une manière douce, rêveuse, anglaise et romanesque de dire « j'ai faim ». Et elle répétait ces mots jour et nuit en montrant les plus jolies dents du monde qui vous eussent attendris et égayés à la fois. J'aurais pu faire ma fortune en la montant dans les foires, mais comme monstre polyphage, je la nourrissais bien, et cependant elle m'a quitté. Pour un fournisseur aux vivres, sans doute, quelque chose d'approchant, une espèce d'employé dans l'intendance, qui, par quelques tours de bâton à lui connu, fournit peut-être à cette pauvre enfant la ration de plusieurs soldats. C'est du moins ce que j'ai supposé. « Moi, dit le quatrième, j'ai enduré des souffrances atroces par le contraire de ce qu'on reproche en général à l'égoïste femelle. Je vous trouve malvenu, trop fortuné mortel, à vous plaindre des imperfections de vos maîtresses. » Cela fut dit d'un ton sérieux par un homme d'un aspect doux et posé, d'une physionomie presque cléricale, malheureusement illuminée par des yeux d'un gris clair, de ces yeux dont le regard dit « je veux » ou « il faut » ou bien « je ne pardonne jamais ». Si, nerveux comme je vous connais, vous, j'ai, lâches et légers comme vous êtes, vous deux, K et J, si vous aviez été accouplé à une certaine femme de ma connaissance, ou vous seriez m'enfui, ou vous seriez mort. Moi, j'ai survécu comme vous voyez. Figurez-vous, une personne incapable de commettre une erreur de sentiment et de calcul. Figurez-vous, une sérénité désolante de caractère, un dévouement sans comédie et sans emphase, une douleur sans faiblesse, une énergie sans violence. L'histoire de mon amour ressemble à un interminable voyage sur une surface pure et polie comme un miroir, vertigineusement monotone, qui aurait réfléchi tous mes sentiments et mes gestes avec l'exactitude ironique de ma propre conscience, de sorte que je ne pouvais pas me permettre un geste ou un sentiment déraisonnable sans apercevoir immédiatement le reproche muet de mon inséparable spectre. L'amour m'apparaissait comme une tutelle. Que de sottises elle m'a empêché de faire, que je regrette de n'avoir pas commises. Que de dettes payées malgré moi. Elle me privait de tous les bénéfices que j'aurais pu tirer de ma folie personnelle. Avec une froide et infranchissable règle, elle barrait tous mes caprices. Pour comble d'horreur, elle n'exigeait pas de reconnaissance le danger passé. Combien de fois ne me suis-je pas retenu de lui sauter à la gorge en lui criant « Mais sois donc imparfaite, misérable, afin que je puisse t'aimer sans malaise et sans colère !» Pendant plusieurs années, je l'ai admiré, le cœur plein de haine. Enfin, ce n'est pas moi qui en suis mort. Ah, firent les autres, elle est donc morte? Oui, cela ne pouvait continuer ainsi. L'amour était devenu pour moi un cauchemar accablant. Vaincre ou mourir, comme dit le politique, telle était l'alternative que m'imposait la destinée. Un soir, dans un bois, au bord d'une mare, après une mélancolique promenade où ses yeux à elle réfléchissaient la douceur du ciel et où mon cœur à moi était crispé comme l'enfer. Quoi? Comment? Que voulez-vous dire? C'était inévitable. J'ai trop le sentiment de l'équité pour battre, outrager ou congédier un serviteur irréprochable. Mais il fallait accorder ce sentiment avec l'horreur que cet être m'inspirait, me débarrasser de cet être sans lui manquer de respect. Que voulez-vous que je fisse d'elle, puisqu'elle était parfaite? Les trois autres compagnons regardèrent celui-ci avec un regard vague et légèrement hébété, comme feignant de ne pas comprendre, et comme avouant implicitement qu'ils ne se sentaient pas, quant à eux, capables d'une action aussi rigoureuse, quoique suffisamment expliquée d'ailleurs. Ensuite, on fit apporter de nouvelles bouteilles pour tuer le temps qui a la vie si dure et accélérer la vie qui coule si lentement.